Ce qu'on va voir, c'est qu'on va parler justement, on va définir un peu ce fameux mot qu'on emploie depuis tout à l'heure, qui est le mot vision. Selon les milieux, les sensibilités de l'Église, c'est pas forcément un mot très courant. Parfois, on l'emploie à outrance. Parfois, on n'en parle pas du tout. Et en fait, il y a quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle le leadership, le fait de servir les gens et notamment sur la capacité à motiver, qui est de l'ordre de la vision. Alors, si on devait donner une définition simple à une vision, c'est comme ça en tout cas qu'on la définit. Après, il peut en avoir des tonnes, hein. Je suis persuadé que si on demandait à chacun quelle est sa définition de la vision, on en aurait une trentaine différentes. Voici ce qu'on vous propose. Avoir une vision, c'est percevoir un avenir meilleur en dépit de la réalité qu'on a devant les yeux. Ok ? Avoir une vision, c'est avoir une vision d'un avenir meilleur en dépit de la réalité difficile dans laquelle on est. Oui ?
Pourquoi meilleur ?
Parce qu'elle permet de faire le lien plus facilement entre l'attente des personnes et ce vers quoi elle doit aller pour être acteur de changement. Et du coup, avec cette vision, on leur donne l'occasion de répondre fondamentalement aux aspirations profondes qu'elles ont. Et c'est simplement, en fait, imaginer un futur possible. C'est comme ça, en tout cas, qu'on pourrait le définir. Dans la Bible, on parle d'avoir la foi, et c'est d'avoir l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Je pense que la vision, en fait, se rapproche. C'est en lien avec, justement, cette notion. En 10 minutes avec vous, j'aimerais voir, justement, les trois tests d'une vision authentique, parce que c'est important que vous soyez sûr d'où vient votre inspiration concernant la vision. Et il y a un ami pasteur qui disait, qui a été pasteur d'ailleurs à Montpellier, qui disait « Une vision, c'est simplement une idée de Dieu qui flottait dans l'air comme ça, que vous avez, comme dans des bulles, en fait, que vous avez cogné dans vos têtes et ça y est, vous avez dit « j'ai une idée ». En fait, l'idée, elle était là bien avant vous, et simplement vous avez rencontré quelque chose que Dieu avait sur le cœur. Alors, la grande question qu'on a lorsqu'on travaille avec une équipe, c'est qu'est-ce qui fait que des organisations, des personnes, arrivent à mobiliser d'autres personnes et qu'est-ce qui fait que certains n'arrivent pas? Et dans un premier temps, c'est ce qu'on va voir en fait. Qu'est-ce qui définit qu'il y en a qui arrivent à inspirer et que d'autres échouent? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on réfléchit un peu à cette question de la vision, on se rend compte que fondamentalement, elle fait appel à une partie de notre être qui est vraiment les tripes. Et c'est apparemment biologique, en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait appel à un besoin profond qu'il va falloir exprimer, mettre en mots. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois vous discutez avec des amis, vous échangez, et vous dites des choses, et là votre ami il est à fond en disant « c'est exactement ce que je pense ». Mais il ne l'a pas formulé forcément avec ces mots-là, mais en tout cas, ça rejoignait quelque chose, une aspiration profonde qu'il avait. Il y a trois choses qui sont intéressantes. Il y a un homme qui s'appelle Simon Sinek.
Je n'ai pas de marqueur. Je pense qu'on a des marqueurs.
Oui.
Ah.
J'ai le binôme.
Donc c'est Simon Sinek. Et vous allez trouver ça sur TED.com.
Est-ce que quelqu'un connaît TED.com ?
Très bien. Eh bien, c'est à connaître, à diffuser, c'est le principe de base. C'est une plateforme de vidéos où vous avez des talks de 5, 10, 15 minutes qui parlent de beaucoup de sujets, et notamment l'innovation, le changement, le design et la technologie. Je vous invite vraiment à aller. Cet homme-là, en fait, il est très intéressant parce qu'il a décrypté ce qui faisait que les gens pouvaient mobiliser d'autres personnes et d'autres pas. Et son principe est très simple. Il dit en fait qu'il y a, il exprime sous un schéma de cercle concentrique.
Ça, on a vu. Donc il y a trois cercles.
Le pourquoi touche à la finalité de ce que vous faites. Le comment c'est, comment vous y prenez pour le faire. Et le quoi c'est, qu'est-ce que vous faites concrètement. Ok ? Généralement, si vous allez dans une église, une paroisse ou une entreprise, on va pouvoir vous décrire qu'est-ce qu'on fait. D'accord ? Lorsque vous demandez à cette paroisse, à cette église, comment vous le faites, il y a déjà moins de personnes qui peuvent vous répondre sur quels sont quelle est la manière dont on s'y prend, les process, les organisations. Alors, quand vous arrivez au pourquoi, quand vous allez voir dans une église ou dans une entreprise, c'est pas forcément systématique que les employés arrivent à vous dire pourquoi notre entreprise église existe, pourquoi cette église ou cette paroisse existe, quelle est sa finalité. Et ce qui est intéressant, c'est que si on devait prendre deux sociétés qui communiquent, il y en a une qui arrive à mobiliser, il y en a une autre qui arrive à moins mobiliser, pour une raison toute simple. Il y en a une qui va communiquer, qui va dire voilà, nous ce qu'on fait en fait, on fait des ordinateurs, c'est la compagnie Dell. On fait des ordinateurs, ils sont faits dans un matériau qui est fiable et ça marche très bien. Ok ? Et si on prend l'exemple d'Apple, Apple il va dire, nous on a une vision, c'est qu'on veut changer le statu quo. Et pour ça, on veut vous proposer des outils qui sont formidables, qui marchent bien, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Ok ? On voit bien qu'il y a des gens qui sont fans d'Apple, il y a très peu de gens qui sont fans de Dell. Mais la seule différence entre les deux organisations, c'est qu'il y en a une qui communique du quoi, comment, au pourquoi, et il y en a une autre qui communique du pourquoi au comment, vers le quoi. Je le refais. Il y en a une qui communique et qui dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et qui ne parle pas du pourquoi. Et il y en a une autre qui parle de la vision et qui dit voilà ce qu'on fait, comment on s'y prend. On fait des outils, des ordinateurs qui sont beaux, intuitifs, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Et c'est juste une question, une manière de donner les informations. Simon Sinek dit que si vous voulez mobiliser les gens, il faut inverser l'ordre des informations. Parce que la tentation, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Rarement le pourquoi on le fait. Mais ce qui parle au cœur, ce qui parle aux aspirations des gens, c'est le pourquoi. Donc dans votre manière de communiquer, dans notre manière de communiquer, qu'est-ce qu'on dit? Nous, je le vois très bien, pour expliquer le parcours alpha, on dit toujours qu'est-ce que c'est. Parce que c'est comme ça, les gens ont besoin d'informations pratiques. Et si on va dans le concept, c'est là où on perd les gens. Et en même temps, c'est là où on peut vraiment engager les gens à aller dans une certaine direction. D'accord ? Ça va ? Donc le premier test d'une vision authentique, c'est est-ce que ça vient de l'intérieur ? Est-ce que ça vient du pourquoi ? Vers l'extérieur ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a plaqué ? Ok ? C'est pas la même chose de dire oui, notre curé ou notre pasteur, il voudrait qu'on lance un parcours alpha ou une autre activité, que de se dire nous, notre désir, c'est de toucher des personnes, leur annoncer l'évangile dans une atmosphère conviviale, avec un partage de l'amitié, avec un repas. C'est pas la même chose de dire ça que de se dire on va juste lancer un parcours alpha. Qu'on pourrait lancer d'autres choses d'ailleurs. Vous voyez ? Et donc ça c'est un premier point, c'est que une vision authentique, elle dit aux gens, les gens ils vont pas acheter ce que vous faites, ils vont acheter pourquoi vous le faites. Et du coup c'est important qu'en tant que leader vous clarifiez et vous mettiez des mots sur le pourquoi vous faites les choses. Ok ?
Première chose.
La deuxième chose, c'est votre pourquoi démontre votre réelle motivation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La plupart des gens... Je vais parler de l'expérience des frères Wright. Vous savez, ce sont ceux qui ont fait décoller le premier avion. Et on a beaucoup entendu parler des frères Wright, mais on a rarement entendu parler d'un autre homme qui s'appelle Samuel Pierpont Langley. Samuel Pierpont Langley, donc c'est au début, tout début du XXe siècle, c'était une période, en fait, il faut savoir, tout le monde essayait de faire voler des avions, toutes sortes de choses. C'était vraiment là. Et en fait, Samuel Pierpont Langley, il avait vraiment toutes les ressources pour le faire. Il avait le capital, il avait les bonnes personnes, les scientifiques qu'il fallait. Il sentait que le marché était dans un positionnement où s'il trouvait la solution, il allait faire fortune. Et contrairement au frère Wright, qui n'avait pas une thune, qui était connu de personne, et qui ne savait pas trop, en fait, ils n'avaient pas trop en compte le contexte économique de l'époque. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces gars-là, ils avaient un rêve, ils ont réussi à faire décoller le premier avion, et on n'a jamais, jamais entendu parler de Samuel Pierpont. Parce que dès qu'il a su que les frères Wright avaient fait décoller le premier avion, il est passé à autre chose. En fait, le deuxième test, c'est que si vous avez vraiment une vision, vous allez être passionné par cette vision. Et vous n'allez pas vous arrêter au premier obstacle. Et ça, c'est pour moi un bon critère de discernement, parce que entre Orville et Wilbur, qui étaient inspirés par une cause, un but, une croyance, et Samuel, la vision a fait la différence. Avoir une vision avait la différence. Samuel Pierpont voulait être riche. C'est pas une vision. Tout le monde veut être riche, le monde fonctionne et est centré sur l'argent, mais en soi, c'est pas une vision. Ce qui se passe, c'est très intéressant au niveau de la génération montante de gens qui veulent faire des écoles de commerce ou des MBA, des diplômes qui leur permettent d'être acteurs de changement. Ils sont de moins en moins en train de regarder les grandes boîtes, ils sont en train de se dire, et si on faisait, on se lançait dans du développement durable, dans de l'innovation sociale, dans des choses qui touchent à l'écologie, à l'économie solidaire et sociale, parce qu'il y a un besoin de sens beaucoup important que l'argent ne nourrira de toute façon jamais. Donc la question c'est, les gens achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Et le point clé dans ça, c'est quelles sont vos convictions par rapport à la vision que vous avez. Parce que les gens, ils vont pas vous suivre si vous dites « j'ai un plan », ils vont vous suivre si vous avez un rêve. D'ailleurs, Martin Luther King, il n'a pas dit « j'ai un plan », il a dit « j'ai un rêve ». Donc c'est vraiment ça, la question c'est de se dire quelles sont mes convictions, parce qu'on suit les gens qui ont des convictions. Quelles sont vos convictions par rapport à la vision que vous avez reçue? Et si au premier obstacle, au deuxième obstacle, ça flanche, c'est que c'était peut-être pas une vision pour vous, ou c'était pas quelque chose que vous aviez dans les tripes. Et donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui vous motive? La troisième test, c'est que votre pourquoi normalement répond aux aspirations des autres. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Martin Luther King a fait son grand discours, des foules se sont mobilisées. Mais ce que dit Simon Sinek, c'est très intéressant, ils ont dit, c'est pas parce qu'il y avait Martin Luther King qui sont venus. C'est parce qu'ils en avaient tous assez de la ségrégation de l'époque. Et ils se sont levés comme un seul homme, parce qu'ils se sont dit, stop, c'est plus possible que ça dure. Ils partageaient la même aspiration que cette dame, Rosa, qui s'est levée un jour et qui s'est installée dans un bus qui était réservé aux Blancs. Et c'est exactement la même ferveur, la même conviction qui a été habitée par ces gens qui sont venus écouter Martin Luther King. Donc du coup, lorsqu'on est leader, quelque part, on est catalyseur de cette vision, on fait le lien entre un futur possible et les aspirations des gens. Et notre vision va être un levier pour faire en sorte que ces gens qui ont ces aspirations deviennent des acteurs. Ok ? Donc c'est toujours important de communiquer d'abord le pourquoi, ensuite le comment et le quoi. Parce qu'avec le pourquoi, vous touchez le cœur. Ok ? Une dernière chose, et puis je vais clôturer ce point, et puis on va passer à un exercice. Suis-je dans les temps ?
Je suis dans les temps.
Formidable. Je vais vous montrer un truc qui s'appelle la courbe de l'innovation.
C'est un truc très simple, vous avez dû voir ce schéma. Okay.
Cette courbe de l'innovation, en fait, elle nous apprend quelque chose de très intéressant. On a généralement 4 types de public lorsqu'on parle de changement. Il y a les gens qui sont... Alors, je vais vous donner des pourcentages. Si vous, il y a un matheux parmi vous qui dit « ça tombe pas sur 100%, merci de ne rien dire. »
Vous avez un premier public qui est de l'ordre de 2%, 2,5%, qui sont ce qu'on appelle les innovateurs. Ensuite, vous avez 13% de gens qui sont des utilisateurs de la première heure. Ensuite, vous avez 34%, alors c'est là, j'ai fait une erreur. 34%. Et vous avez... Ah non, pardon, 34% c'est ici et 36% c'est ici, pardon. Donc ça c'est 34%, c'est pour là, et là c'est 36%. Okay. Et vous avez un infime pourcent de personnes, donc les 5%, qui eux, de toute façon, n'ont qu'un rêve, c'est de rester à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que l'erreur, c'est de vouloir, lorsqu'on parle d'un projet, de quelque chose qui est important pour nous, c'est de vouloir tout de suite toucher les 34-36%. La loi de niveau d'innovation nous montre que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre, mais plutôt s'adresser aux 2 ou 3% qui ont peut-être la même idée que vous et qui vont être déjà dans cette dynamique d'innovation, qui ont saisi dans le temps, en fait, dans le contexte actuel, qui ont saisi c'était quoi le véritable enjeu. Okay. Donc si vous avez un projet, une innovation sociale, etc., trouvez des gens qui pensent comme vous, qui vont avoir le même rêve, qui saisissent la même aspiration. Vous ne fatiguez pas à aller chercher vos 34% tout de suite, vous allez vous épuiser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va chercher les 2%,
ces 2% vont nous permettre de rejoindre ces 13% qui, eux, vont faire tout le boulot. Et là, ce qui va se passer... c'est qu'on va basculer à ce qu'on appelle en anglais un tipping point.
C'est un point de basculement qui va changer, qui va faire que votre projet, vos rêves, va vraiment rejoindre le gros du public. Donc pour vous, en tant que leader, le principe, c'est de se dire quelles sont les personnes, quels sont mes 2% en fait dans ce que je veux faire. Et par rapport à mes 2%, en termes de réseau, comment rejoindre ces 13%? Et ces 13% vont naturellement amener les 34% plus les 36%. Donc votre communication, elle ne doit pas être hyper large, vous dire au bout d'un an, deux ans, vous découragez, vous dites non, on n'a pas la bonne idée. Elle ne va pas tout de suite saisir tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est important que vous vous dites, au final, si ma vision, la vision que j'ai reçue, la vision que je me suis appropriée, qui m'habite pleinement, est-ce que d'une part, elle est... j'ai oublié mon premier point déjà. Si elle est authentique, le premier test, c'est quoi déjà? Je les ai perdus, tu sais. Ils sont là-bas. Eh oh! Le premier test, c'est...
La dynamique de l'intérieur vers l'extérieur.
La dynamique de l'intérieur vers l'extérieur. Le deuxième test, c'est... La motivation. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment motivé? Est-ce que je m'écrase pas d'être qu'un obstacle? Et le troisième étant, celui qu'on est en train de voir maintenant, inspirer les autres, rejoindre leurs aspirations. Okay? Donc pour discerner en fait si votre vision elle est vraiment réelle, qu'elle vient de Dieu, Dieu il a plein d'idées, il a plein de visions, il attend quelqu'un qui soit réglé sur la même fréquence que lui et qui va entendre le cri du peuple que Dieu a entendu en Égypte lorsqu'il voulait délivrer son peuple. D'accord? Donc, premier point, si on récapépète, première chose, est-ce que cette vision que vous avez reçue, elle vient de vos tripes? La seconde, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui me permet d'être déterminé, d'être constant dans ce que je vais faire? Est-ce que je grandis à travers les obstacles ou je m'arrête? Et la troisième, c'est, est-ce qu'elle rejoint réellement les personnes qui m'entourent? Et à partir de là, on peut vraiment discerner si c'est quelque chose, une vision authentique ou pas. Le premier exercice qu'on a fait, c'était vraiment être un leader authentique. On suit un leader authentique qui a reçu une vision authentique. Ça va? On fait un petit exercice. Un trans.
Pareil, on va travailler en binôme. Vous allez raconter une expérience où vous avez entraîné et influencé des gens à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. et qui a suscité chez, donc chez les autres l'envie de vous suivre. Hein. Ça peut être quelque chose, mais de ultra banal, hein, quoi, banal. Quelque chose de la vie quotidienne. Du genre, on est 10 copains, il y en a 9 qui veulent aller voir un film d'horreur, et moi, les films d'horreur, c'est juste pas possible. Je fais des nuits blanches à répétition, donc comment je fais pour convaincre tout le monde? Ou comment j'emmène tous mes copains manger sushi alors que clairement c'était plutôt un plan McDo. Ça peut être, mais ça peut être quelque chose de plus beau que ça. Ça peut être comment j'ai emmené 3 copains à Alpha Connect Marseille alors qu'ils étaient tous bien décidés à se promener dans les calanques le même jour. Donc, c'est réfléchissez à une expérience comme ça et vous partagez en binôme l'expérience. Et puis après, il y aura une deuxième partie que je vous donne. Je fais un petit effet teasing. Donc, commencez par réfléchir à une expérience où vous avez emmené les autres. Ou une autre personne, vous avez réussi à l'influencer vers quelque chose qui n'était pas forcément son idée initiale. Vous pourriez peut-être changer de binôme, non? Jean, vous parlez à la personne qui est derrière vous. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'en fonction de ce que l'autre vous a dit, de son expérience, vous allez réfléchir à deux sur ce que vous avez utilisé comme levier. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Quoi utiliser? Qu'est-ce que vous avez... comment vous êtes débrouillé pour que l'autre change d'avis et suive ce qu'il avait, ce que vous aviez décidé? Réfléchissez, vous allez trouver quelque chose de commun en général, dans toutes les expériences, en tout cas dans chacune des expériences que vous venez de vous partager. Alors, est-ce que vous avez discerné, est-ce que vous avez défini, découvert ce qui fait que vous avez réussi à influencer les autres, ce qui fait que vous avez réussi à les emmener là où ils ne voulaient pas aller, forcément, ou qu'ils ne le savaient pas de façon consciente? À votre avis, c'est quoi? Vous avez quoi comme idée? Vous avez servi de quoi pour convaincre les autres?
Bon, les sentiments.
Ouais.
Bon, il y a certaines personnes... Le harcèlement, quand vous répétez l'idée.
D'accord, alors ça s'appelle de la manipulation, mais.
Ou la manipulation,
ouais.
Pardon ?
La passion.
La passion ?
Être convaincu sur l'avenir.
Ouais.
L'argent. C'est l'argent, c'est bon. C'est convaincu. Souvent dans un groupe, commencer à parler à la personne qui est peut-être la plus ouverte. Oui. Il est la plus capable d'aller au changement. Comme ça, si on arrive à convaincre une personne, mais c'est plus facile après de convaincre les autres, une par une. Après, il n'y a plus rien à faire. Les autres, pas besoin de convaincre chaque personne.
Alors, allez voir le film 12 hommes en colère. Vous l'avez jamais vu, ce film? Très intéressant dans ce domaine-là. Pardon?
La vieille version
d'Henri Blanc. La vieille version d'Henri Blanc, avec un acteur, je ne sais même plus qui c'est.
Henri Fonda.
Henri Fonda.
Ah ouais.
Comment j'ai pu oublier ça? Donc, ce qui est frappant, en tout cas, quand on vous entend, c'est que fondamentalement, j'ai entendu la passion, j'ai entendu on est convaincu. Dès lors que vous avez une vision, et ça peut être une envie, dès que vous avez un moteur, vous convainquez les autres. Donc, on en revient toujours au même point, c'est que si vous êtes sûr de ce que vous voulez, si vous êtes convaincu, alors vous convaincrez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi bien dans les aspects, l'aspect le plus trivial de la vie, que même pour des choses autrement plus nobles et riches au service du Christ en particulier. Dès que vous avez une vision, dès que vous êtes convaincu, dès que vous êtes sûr, les autres vous suivront. Charlie ?
Yes.
Excusez-moi.
Oui.
Dans ces éléments-là, il y a une chose qui a été quand même dit, c'est dans l'idée de vouloir partager sa passion, plus que dans l'idée de vouloir changer la vision de l'autre.
Bien sûr.
Mais dans l'effet d'influencer, il y a quand même quelque chose qui est gênant, c'est que quand on cherche à vouloir changer et à transformer la vision et la compréhension de l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais, et ben c'est pour ça que j'employais tout à l'heure le mot manipulation. Mmh. C'est une très bonne remarque, c'est toute la différence entre influencer et manipuler. Parce qu'influencer au sens leadership tel qu'on l'entend, c'est faire aussi ce qui est bon pour l'autre. La manipulation, non seulement je ne fais pas forcément ce qui est bon pour l'autre, mais surtout je fais de l'autre une chose. Dans l'influence, l'autre reste une personne. Donc c'est une très bonne remarque. C'est pour ça que j'ai employé le mot manipulation tout à l'heure. C'est que je pense vraiment que la différence, elle est ténue. Et la différence, elle est soit c'est dans le respect que j'ai pour l'autre. Dès que je choisifie la personne, c'est plus l'influence, c'est de la manipulation. Merci beaucoup de m'avoir précisé, permis de préciser ça.
Ok. Ça va? On va passer au deuxième point, en fait, on doit courir. Je ne vais pas tout vous dire, parce que vous avez des lignes, il y en a qui resteront vides. Je vous renvoie au blog, de suivre vraiment régulièrement Facebook, vous allez voir, on va poster les articles. Yes?
On parle d'un blog, et c'est quoi ce blog? C'est où?
C'est le blog Alpha Connect, vous allez sur Alpha Connect, vous allez voir un petit onglet blog, vous allez dessus. Et de toute façon, si vous avez aimé notre page, vous allez voir, quand on poste les articles, vous allez tout de suite le savoir. C'est le moyen le plus simple de suivre sans aller checker tous les jours comme un... Alors, donc c'est blog-alphaconnect.fr, vous allez sur le site alphaconnect.fr, ok? Alors, premier point numéro 2, recevoir une vision de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose de hyper mystique. Alors, il y en a qui sont mystiques, qui aiment ça, et il y en a qui sont hyper pragmatiques, et ça leur sort par les trous de nez, parce qu'ils disent, c'est quoi ce truc? Il faut fumer, il faut se mettre dans une position particulière... Avoir une paille dans la bouche et des piercings là où vous voulez. Plusieurs choses qui nous interpellent. La première, c'est cette parole qui dit « Mon peuple périt faute de vision ». Et ça veut bien dire que le leader reçoit une vision, il est conduit par cette vision et qu'il emmène des personnes qui partagent cette aspiration. Et il y a plusieurs moyens de rechercher la vision de Dieu. Je vais vous en donner qu'un seul. La vision, elle s'inspire de notre histoire. La vision s'inspire de notre histoire. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident que je vais vous dire, mais parfois, à grande souffrance égale grande vision. D'accord ? On a vécu quelque chose de difficile, et vous pouvez voir ça dans beaucoup d'associations qui ont été lancées. Pas tout le temps, mais souvent le fondateur est passé par une expérience difficile qui lui a ouvert les yeux sur un besoin, sur quelque chose qui n'était pas normal, et il a lancé une association, un mouvement à partir de là. Et ça prend racine dans son histoire, dans sa souffrance personnelle. Pour ça, ce matin, je vous disais, être leader, c'est prendre le chemin difficile de grandir, notamment par la souffrance. Il ne faut pas virer au dolorisme, bien sûr. Mais ça part de beaucoup de frustrations ou de choses qui n'ont pas été vécues. Et l'un des moyens de faire résilience, de donner du sens à cette souffrance, c'est en montant justement un projet, un mouvement, une association qui va permettre de faire en sorte que cette chose n'arrive pas à d'autres. Un autre truc qui est assez drôle, mais par exemple, si vous n'aimez pas la solitude, c'est parfois plus facile, au bout d'un moment, quand on arrive à surmonter ça, d'aller vers les gens et de sentir la solitude des gens. Et c'est de cet ordre-là. Dans votre histoire, qu'est-ce qui sont les choses qui vous font pleurer et qui vous font rire ou qui vous ont fait du mal? Eh bien, il est possible que d'un mal, Dieu veuille fasse sortir un bien. Donc, il faut essayer de voir un peu qu'est-ce qui peut aller de ce côté-là.
Je vais montrer plusieurs choses. On n'aura pas le temps de les voir. Donc, ça va être frustrant. Mais je suis persuadé que... Vous allez surmonter cette souffrance sans problème. Alors ça, on passe à autre chose. Et j'en arrive tout de suite à la vision s'inspire de notre histoire. Ça, on a vu et revu réponse aux besoins des autres. Vous aide à rassembler les ressources, on en reparlera une autre fois. Une autre fois, un prochain va te connaître peut-être. Ça, c'est une parole, je pense, que vous avez sur vos...
Ça revient à tout à l'heure ce qu'on disait, on est face à une situation impossible et qu'on se sent incapable, c'est la bonne équation pour que Dieu puisse se glorifier. Ok ? Donc ça revient un peu ça, c'est dit de manière différente. Mais Dieu a le syndrome des anti-héros. Ok, deuxième chose, donc il y a d'une part... Regardez dans son histoire, et il y a aussi se mettre à l'écoute des bonnes voix. Et être à l'écoute des bonnes voix, là je vais vous en donner deux. La première voix, c'est la voix du succès. Ça peut paraître bizarre, mais on nous apprend à tirer des leçons de nos échecs, ce qui est très bien, et c'est encore mieux de le faire lorsque ce sont les échecs des autres. Même si Si voilà, on n'a pas une culture de l'échec intelligent en France, parce que dès qu'on fait un échec, c'est la remise en cause de la personne, etc. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais plusieurs recherches ont démontré qu'on apprenait plus de nos succès que de nos échecs. Et c'est important de savoir quand quelque chose se passe bien, de se poser et de réfléchir et de dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a fait que ça a marché en fait, ce que j'ai pu faire. Et ça va vous permettre en fait de capitaliser sur les bonnes manières de faire, les bonnes expériences, et d'essayer de trouver ce qu'on peut reproduire, partager. Parce qu'on parle de vision depuis tout à l'heure, il ne s'agit pas juste de dire sa vision, il s'agit de la vivre. Et il s'agit de faire vivre à notre entourage des expériences communes qui vont cristalliser cette vision, qui vont faire que ça va être palpable en fait pour les gens. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand je vois les équipes Alpha Connect travailler ensemble ou sentir un peu comment ça se... Et on voit bien qu'il y a des expériences qui se vivent tout au long, parce que moi je les vois surtout au début, et je les revois un peu à la fin. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est de voir la cohésion qui se prend dans l'équipe. Et parce qu'il y a des expériences derrière. Du coup, la question c'est, vous avez une vision, vous la dites, vous la partagez, vous la vivez, mais quelles sont les expériences que vous suscitez pour que les gens puissent se l'approprier, la sentir et la palper? Ok ? Donc la voie du succès. La deuxième voie, c'est bien sûr la voie de l'éternel. Ça peut paraître évident, parce que la Bible, on n'ose pas trop le dire, mais c'est un livre où on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. C'est dans une culture qui est complètement différente de la nôtre, et on a du mal à se dire comment, dedans, je vais pouvoir entendre la voix de Dieu. En fait, il y a la Bible, et puis elle devient parole de Dieu quand elle nous touche, elle nous parle au cœur. Et je vais vous donner mon expérience, et elle est unique, et ça se trouve, ça ne va pas vous rejoindre, mais je crois que plus on lit la parole, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de comprendre la perspective et la vision de Dieu. C'est comme s'il y avait un... C'est pas très beau comme image, mais c'est comme s'il y avait un logiciel qui vous permettait de décrypter la matrice. Ok ? Plus vous la lisez... Merci. Plus vous la lisez et plus vous la comprenez, en fait. Et plus vous êtes capable de dire « Ok, ça vient Dieu, donc ça vient pas trop Dieu. » Et vous développez un discernement. Mais ça va être difficile de dire « Je veux tout de suite discerner en lisant une fois la parole, deux fois. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et plus on la lit, plus on s'en imprègne, et il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas mystique en fait, parce que je pense que c'est, pour moi, la foi ressemble plus au sport qu'à la philosophie, mais c'est quelque chose qui est en train de se produire dans le cœur, dans votre intelligence, qui fait que vous avez vraiment cette intelligence qui illumine le cœur et qui vous permet de comprendre qu'est-ce qu'il dit là, le Seigneur, à travers ce livre écrit par des gens qui sont complètement pas dans notre époque, qui ont vécu, où ça s'écrit dans un contexte bien précis, etc. Et je vous invite vraiment à étudier les textes dans leur contexte, parce que sinon on en fait un prétexte, c'est connu, mais vraiment de vous imprégner de ce qu'ils vivent et de voir, et il y a des parallèles qui vont se faire naturellement. Mais la voie d'Athéna, la voie du succès, moi, c'est vraiment des voies qui me semblent hyper importantes. On va terminer avec un troisième point que je dois faire en une minute, d'après Anne France.
Oui, et moi je distribue déjà mes feuilles des vagues.
J'aimerais vous donner des outils concrets pour savoir comment exprimer justement cette vision, ok ? Normalement, on devrait faire des exercices à chaque étape de brainstorming, etc. C'est dommage, c'est pas possible. Mais rien ne vous empêche de reprendre ces étapes-là et de les refaire avec vos équipes, vos groupes. D'accord ?
Première étape, c'est trouver trois mots-clés. Savoir résumer, en fait, votre vision à travers trois mots-clés.
Je vous donne un exemple. Pour Alpha Connect, on a annoncer, s'équiper, innover. Ça, vraiment, ça résume, en fait, cet événement. Annoncer parce qu'on a à cœur en fait que les jeunes puissent avoir des outils pour évangéliser là où ils sont. S'équiper parce qu'on a besoin, on a conscience du besoin de formation et pas seulement d'outils techniques, mais aussi d'attitude, de posture de leader. Et puis innover parce qu'on sent bien qu'il y a un enjeu d'innovation énorme qui nous attend maintenant dans l'Église et dans la société et auquel je pense la jeunesse a un grand rôle à jouer. Donc c'est ça, résumé en trois mots, c'est savoir exprimer en trois mots ce que ça veut dire. Le nom qui doit faire wow. Avant d'arriver à Alpha Connect, on a fait des sondages sur Facebook, on en a parlé avec des jeunes qui sont très impliqués, on s'est dit c'est quoi en fait le mot qui pourrait résumer le plus en fait ce projet, cette vision. Il est ressorti le mot connecté, mot qu'on utilise maintenant plein de choses. Il y a plein de choses qui s'appellent connect, on rajoute connect, on est dans la tendance. Mais nous, le mot connecté, on l'entend de trois manières différentes. Connecté à Dieu, Parce qu'on ne veut pas que durant notre événement, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience spirituelle, connecté aux autres jeunes qui partagent les mêmes aspirations, ce désir de partager la foi, d'être au service du monde, de l'Église, et connecté à d'autres jeunes leaders. Parce qu'on s'est rendu compte, et notamment pour les ados, que c'était hyper important de pouvoir s'identifier à des étudiants et des jeunes pros, et c'est pas forcément quelque chose... On a eu beaucoup de débats d'avoir dire est-ce qu'on accueille des lycéens dans les Alpha Connect ou pas. Et notre conviction, c'est de dire oui, justement, on veut susciter ce lien. Parce que c'est facile en tant qu'étudiant, jeune pro, de rester centré sur soi et sa vie et faire ses choses. Mais ce qui est vachement plus clé, et c'est là qu'on grandit le plus, c'est quand on a le souci de ceux qui arrivent après nous et on arrive à faire le lien avec les gens qui sont devant nous. Et je pense que notre génération, elle est vraiment entre... Mais j'en parlerai demain en plus en détail. Ok ?
Je continue. Le nom qui fait wow, un slogan.
Un slogan, c'est vraiment quelque chose qui se dit en même pas une phrase. Nous, le slogan Alpha Connect, le défi de la mission, le défi de cette génération. Et c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça permet de savoir un peu de quoi il s'agit, de quoi on parle. Le pitch, c'est un peu plus que le slogan, c'est un peu ce que je vous ai dit avec annoncer, s'équiper, innover. Mais j'ai un autre pitch. Que pour vous montrer un peu ce que c'est vraiment un petit speech très court qui permet d'aller à l'essentiel. Moi, quand je me présente assez régulièrement en conférence, je dis voilà, je m'appelle Charlie, j'ai trois passions dans la vie. La première, c'est d'aimer le Christ que j'ai rencontré à l'âge de 18 ans et ça m'a complètement bouleversé. La seconde, c'est ma famille qui m'apprend à aimer au-delà de moi-même et qui m'apprend aussi à découvrir les choses à purifier dans ma vie, qui me met sur un chemin de sainteté. Et la troisième chose qui me passionne, ce sont les jeunes, et notamment d'être avec eux, de partager des expériences avec eux, et de leur permettre de découvrir qui ils sont et vers quoi ils vont. Okay ? Donc ça, c'est un pitch, c'est hyper simple, mais de savoir mettre en pitch votre vision est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Okay ? Sinon, les gens ne vont pas saisir. Et vous allez remarquer souvent avec les gens visionnaires, ils ont plein de mots qu'ils emploient, ils décrivent quelque chose, et on se dit, et plus ils décrivent, plus on est perdu. Parce qu'il faut être hyper synthétique, être efficace dans ce que vous allez dire.
Le storytelling,
ça correspondrait à moi qui reprend mon premier point du pitch, à savoir j'ai rencontré le Christ. Et là, je vous dirais en fait, la première chose qui m'a frustré quand j'ai découvert l'Église, il y en a deux. La première, ça a été la division entre les chrétiens, parce que je ne m'attendais pas à découvrir ça dans les évangiles, ce n'est pas ce que j'avais lu. Et de voir qu'il y avait plein d'églises qui ne s'entendaient pas, qui ne s'aimaient pas, ça a été une profonde blessure pour moi. Et c'est une des choses qui fait que j'aime beaucoup Alpha, parce qu'on rassemble des chrétiens pour découvrir vraiment ce que c'est la fraternité. Et on la découvre quand on est confronté à la différence. Et la deuxième chose, c'est le décalage culturel entre l'Église et la société. Et c'est difficile de pêcher des poissons à des kilomètres de rivage, et c'est difficile d'entrer en relation avec des gens qu'on n'arrive pas à comprendre. Et du coup, ce que j'aime dans le parcours Alpha, c'est qu'on a vraiment mis au centre la dignité de la personne, l'accueil de la personne, c'est l'amour en pratique. Et il y a plein d'autres outils, hein. Je parle de la femme, il y a plein de choses. Mais vous voyez, ça permet en fait de vraiment situer le storytelling, c'est quoi votre histoire par rapport à votre projet. Okay ? Et ça, vous allez voir, surtout en France, on n'aime pas faire ça. C'est très américain, c'est très chaud, c'est très machin. On n'aime pas se dévoiler ou parler de soi-même. Parce qu'on a une culture ici, on n'aime pas l'échec, on n'aime pas la vulnérabilité, il ne faut pas trop parler de ses émotions, on est beaucoup dans la tête. Et c'est une grave erreur en fait. C'est fini, ça y est, c'est fini. Voilà. Hein ? Bon, j'imagine que c'est très frustrant pour vous comme ça l'est pour moi. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais honnêtement, Leader Tribal, c'est juste une introduction au leadership. On survole des sujets sur lesquels on pourrait passer des heures et des heures à discuter, échanger, brainstormer, etc. C'est vraiment... d'une certaine manière, pour vous mettre sur le chemin ou vous renforcer dans un chemin que vous avez déjà pris. Ok ? Donc on ne va pas répondre à toutes les questions des gens, on n'a pas cette prétention-là. Il y a des gens plus compétents qui peuvent le faire. Mais surtout que c'est vraiment pour vous encourager et vous donner envie d'aller plus loin et de creuser ça.